une église pour notre génération, ou on aurait pu dire une église dans notre génération. Je reconnais que mon titre peut paraître assez étonnant, mais en fait, dans Acte 13, verset 36, il est dit « David a servi Dieu dans sa génération ». On va aborder la thématique de l'Église ce matin ensemble. Je suis assez à l'aise, en fait, finalement, d'apporter une petite contribution, une petite réflexion sur le sujet de l'Église, parce que je ne suis pas dans l'Église de Cré. Donc, j'en connais quelques éléments, mais en fait, ne vivons pas au quotidien avec vous, donc je vais être assez libre de partager un certain nombre de choses. J'aurais pu questionner, en fait, les responsables de l'Église avant de venir ici et leur demander, par exemple, où habitent les chrétiens qui fréquentent cette Église ? Quels sont leurs métiers ? Est-ce qu'ils participent au tissu associatif de la ville de Cré ? Est-ce qu'ils connaissent leur ville ? Ses besoins, la réalité, tous les enjeux. Alors, je me suis amusé, Martine, elle n'aime pas trop ça, mais j'ai été sur le site de l'INSEE pour savoir un petit peu, pour connaître un petit peu la réalité de la ville de Cré. Par exemple, j'ai découvert qu'il y avait une forte proportion de personnes qui vivaient seules, 29% sur la ville de Cré. Hein, je ne parle pas de la région, mais sur la ville de Cré. Et qu'il y avait presque autant de familles monoparentales. Les couples avec enfants représentaient environ un quart des ménages. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de couples, en fait, qui n'ont pas d'enfants. La ville de Cré, depuis un certain nombre d'années, et ça, vous le savez, peut-être que vous avez été attiré par cette ville-là à cause de cela, attire beaucoup de personnes en quête d'une certaine qualité de vie. On est dans la Drôme. Mais la réalité de ça, c'est que la ville de Cré vieillit. 35% sont des retraités. Et puis, mais ça, ce n'est pas un scoop, parce que les médias en ont beaucoup parlé ces dernières semaines, la ville de Cré, comme dans bien des villes en France, il y a eu plus de morts que de naissances durant cette dernière année. On est dans une période charnière. Si je dis cela, c'est que finalement, lorsqu'on parle d'un témoignage concernant la vie de nos communautés, de la vie de notre Église, en fait, finalement, nous devons connaître la génération ou les générations qui vivent dans ces villes en 2026. Lorsqu'on lit les textes des Épîtres de Paul, les voyages de Paul, les Actes, les Évangiles, on s'aperçoit que Jésus et Paul se sont intéressés à des villes, à des villages et, bien sûr, à des personnes. On pense surtout au côté interrelationnel qu'a eu Jésus à l'égard des gens. Si la série The Chosen a beaucoup de succès aujourd'hui, c'est parce que on nous parle beaucoup de relations interpersonnelles. Paul, Jésus était intentionnel lorsqu'il s'adressait aux gens. Ils avaient, je ne veux pas dire un projet, mais ils étaient à l'écoute des gens. Ils prenaient en compte leur situation humaine, leur métier. Pensez à Matthieu qui était péager, pensez aux personnes qui étaient malades. Chaque fois, il y avait vraiment une intention à leur égard, une intention d'amour à l'égard de chacun d'eux. C'est pour ça que c'est important que de temps en temps, s'arrêter, se poser des questions à la fois personnelles, communautaires. Si on ne le fait pas, si on continue à marcher comme cela dans notre vie chrétienne et sans jamais se poser des questions, il y a de fortes chances, parce que c'est l'attitude naturelle, qu'un groupe qui est une église, le groupe social qui est une église, devienne finalement un club de gens, un club assez sélect, de gens qui se comprennent, qui ont les mêmes codes. J'ai beaucoup apprécié, Michael, de quelle manière tu parles des déroulements du culte et des moments en expliquant les mots compliqués. Tu le fais naturellement. Mais dans toutes les églises, ce n'est pas comme ça. Et il y a des fois, quand on débarque dans une église et puis qu'on n'a pas 20 ans ou 30 ans de culture chrétienne derrière, en fait, mais c'est quoi ces mots, ce vocabulaire? Ils ont l'impression d'entendre, en fait, des gens qui sont d'une autre culture. Et c'est bien connu que pour s'immerger dans une autre culture, il faut apprendre la langue, faut apprendre l'histoire. Il y a beaucoup de choses à apprendre pour comprendre les différents codes de fonctionnement d'un groupe social. Et lorsqu'on est entre des gens bien et qu'on est dans un club fermé, finalement, c'est peut-être sympathique, mais c'est difficile d'y rentrer. C'est difficile de faire sa place. Et nous connaissons tous peut-être des églises qui sont repliées sur elles-mêmes. Alors, il existe aussi dans le monde chrétien d'autres types d'églises. Il y a des églises hôpitales, par exemple. Ce sont des églises où il y a beaucoup de personnes qui sont meurtries par la vie. Hein, parce que le qui se ressemble s'assemble fait que voilà, on est bien entre gens qui sommes en route, certes, mais voilà, où il y a, la vie nous a meurtris. Il y a des villes aussi, des églises qui sont aussi de type entreprise. C'est des églises dont les responsables de l'église ont assez des profils issus du monde de l'entreprise et ils gèrent l'église un petit peu comme des managers. Puis il y a des églises aussi qui sont de type missionnaire. Ce sont des communautés où toute la structure est organisée, où chaque dimanche, vous entendez des appels à la conversion ou vous entendez des appels à partir au loin. Voilà, des églises que j'appellerais du style missionnaire. Souvent, le pasteur ou la personne qui parle, elle a ce profil-là aussi. Donc, elle aimerait bien que les gens soient comme lui, quoi, ou comme elle, quoi. Donc, voilà. En fait, si je dis tout cela, c'est que osons nous poser la question régulièrement, quelle est notre identité en tant qu'Église? Quelle est l'identité de l'Église de Crès? Quel est son ADN, finalement? L'ADN, c'est positif, hein? Qu'est-ce qui l'a fait vibrer? Qu'est-ce qui l'a fait vivre? Est-ce que l'Église s'est adaptée au fil du temps pour comprendre sa région, sa génération? Est-ce que l'Église a évolué depuis qu'elle s'est implantée ici à Crès? Est-ce qu'il y a eu des changements liés finalement à la composition de la communauté? Si les apôtres, les premiers chrétiens, vivaient passionnellement leur vie d'Église dans leur génération, c'est tout simplement parce qu'ils se laissaient conduire par la puissance du Saint-Esprit. Et aussi parce qu'ils avaient compris que, finalement, Dieu était un passionné depuis tout temps de la notion de communauté. Vous n'êtes pas des individus assis les uns à côté des autres. Vous êtes une communauté. Et tout à l'heure, en prenant le pain et le vin, nous rappelons, nous faisons mémoire de ce que Jésus a fait, mort et ressuscité, mais nous sommes communauté avec des liens forts. Et souvent dans nos églises, nous sommes une famille. Parce qu'une famille, ben, on partage des choses, les joies, les peines, avec tout ce que ça comporte. Et ça, c'est important. On s'aperçoit dès l'origine des textes bibliques que Dieu avait la vision de la communauté. Regardez ce texte. Par exemple, quand il est dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Vous n'avez peut-être pas prêté garde, mais il n'est pas dit « Je fais ». Faisons. Derrière ce mot-là, il y a cette notion de trinité divine, finalement. Le Dieu Père, le Dieu Fils, le Dieu Saint-Esprit est là à l'œuvre dans la création d'une communauté de vie. Au travers du premier homme, il va y avoir d'autres hommes après. Et lorsque Dieu crée, il nous montre finalement quel est son projet, quelle est sa passion. Eh bien, sa passion, c'est d'établir une communauté. C'est d'avoir une relation particulière avec son peuple, avec l'Église. Dans toute la Bible, nous voyons combien Dieu aime la notion de communauté. Et ça m'amène à ce premier point, c'est que l'Église, c'est vraiment le projet communautaire du Christ. Dans une de ses prières juste avant sa mort, Jésus insiste sur l'unité de la communauté. Il va dire « pour qu'ils soient un, comme toi, Père, et moi, nous sommes un ». C'est dans Jean 17. La communauté terrestre, elle est copiée finalement sur la communauté céleste parce qu'elle est à l'image de la communauté divine. Et cette prière, finalement, elle concernait non seulement les disciples immédiats de Jésus, de son temps, dans son vécu sur terre, mais aussi tous les successeurs au fil des âges, au fil des siècles. Et il y a toujours ce rappel nécessaire de faire un, de faire communauté, de rechercher l'unité. Oui, on peut avoir des sujets de désaccord, de désentente. Il y en a beaucoup qui sont relatés dans la Bible. Mais la question est, comment est-ce qu'on les traite? Comment est-ce qu'on les vit? Comment est-ce qu'on les assume? Comment est-ce qu'on les dépasse? Comment est-ce qu'on grandit avec? Ça ne suffit pas de dire, il y a un désaccord, je claque la porte et je règle comme ça le problème. Non, les désaccords, selon Dieu, ne se règlent pas de cette manière-là. Ça se règle par le dialogue, ça se règle par l'écoute, ça se règle dans l'humilité, avec un amour renouvelé de la part du Seigneur. Parler d'unité, c'est une chose, mais c'est un petit peu rachitique si ça s'arrête là pour dire ben, l'Église doit être une. Non, l'Église, c'est aussi autre chose. Pourquoi ? Parce que la vision que Jésus a pour l'Église, finalement, si on parle que d'unité, ça serait incomplet. Au moment de rejoindre son Père, Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il convoque ses disciples. Il leur dit « Venez ». Et il va leur dire quelque chose de très important. C'est dans Matthieu 28. Il leur dit « Bon, vous allez former une communauté nouvelle, mais il y a autre chose à vivre. » Et la plupart d'entre vous, vous connaissez peut-être ce verset qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Pourquoi ces disciples avaient-ils cette capacité de faire des disciples ? Eh bien, tout simplement, à cause du verset précédent, qui est une promesse de la part de Jésus. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alors, il y a « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » et « Voici, je suis avec vous tous les jours. » Il y a, vous voyez, ce sandwich. Et puis les deux, au milieu, là, il y a des choses à faire et des choses à vivre pour cette communauté nouvelle. Et en tant que disciples de Jésus, là, en 2026, en fait, nous sommes porteurs de cette puissance de ce pouvoir, entre guillemets. Faut le dire sans orgueil, bien sûr. Mais en fait, en tant que disciple de Jésus, on a quelque chose qu'une personne qui ne connaît pas Jésus n'a pas. Ou plutôt, non, vous m'avez compris. En tant que disciple de Jésus, nous avons quelque chose en plus qu'une personne qui ne connaît pas Jésus n'a pas. Donc, la question, ce n'est pas d'avoir un regard de supériorité à l'égard des personnes qui nous entourent, mais d'être dans une attitude où nous allons proposer l'Évangile. J'ai bien dit proposer, je n'ai pas dit imposer l'Évangile. Et avant de proposer l'Évangile, il faut écouter la réalité du besoin de la personne, la réalité de son vécu. Et on revient au début, connaître les gens qui nous entourent. Et finalement, par rapport au passage qu'on vient de lire, Jésus n'a jamais dit dans la parole de Dieu qu'il y avait une date limite pour l'annonce de l'Évangile. L'Évangile ne se périme pas. Il reste toujours une puissance pour celui qui croit en Jésus. Donc, ce qu'on a écouté et médité tout à l'heure, les mets Dieu de cette transformation, elle est encore valable pour nous en tant que communauté chrétienne, mais elle est valable aussi pour tous ceux et celles qui nous entourent, parce qu'il y a une espérance. Et ce message de l'espérance en ces temps 2026 qui sont quand même anxiogènes, troublés, il est super fort. Parler de ça, parler de paix, parler d'amour, de Dieu, et de dire oui, il y a une espérance pour celui qui croit en Jésus, ça change les paramètres. J'espère que pour chacun d'entre nous, vous appréhendez de la juste manière votre après. Après la mort, c'est ça que je veux dire. Et les gens aujourd'hui, ils sont anxieux, ils sont troublés. Mais le fait de connaître Jésus, en fait, nous remplit de sa paix et nous donne quelque chose de merveilleux. Mais pour vivre ce projet de Jésus, il y a une question de notre part de fidélité à ce plan, à ce projet perpétuel de la part de Dieu. Et cette fidélité s'exprime de plusieurs manières. Tout d'abord, une fidélité à la parole de Dieu. Parce que finalement, on ne peut pas dire, bon, cet ordre, ce conseil de la part de Jésus d'aller, allez, il n'est plus pour moi, il n'est pas pour moi, ou peut-être que plus tard. Non, en fait, c'est quelque chose. D'ailleurs, ce n'est pas éventuellement vous pourriez aller. Il n'est pas dit non plus, inviter les gens à venir. Et ça, c'est fondamental. Hein, c'est un peu la clé de ce que j'aimerais partager ce matin. Non, il nous est demandé individuellement, quel que soit le nombre d'années de vie chrétienne que l'on a, d'aller rejoindre des gens qui nous entourent. Avec la manière, mais d'aller, avec tout ce que ça comporte, quoi. Et là, finalement, de rentrer là-dedans, on rentre dans un processus à la fois d'obéissance, mais aussi d'écoute pour la communauté, avec tout ce que cela comprend. C'est un enseignement de base qui est confié à l'Église. Elle a une responsabilité vis-à-vis du monde qui ne connaît pas Jésus. Et cette responsabilité, c'est de transmettre ce message de vie. L'Église ne doit pas être, frères et sœurs, ce groupe d'hommes et de femmes qui seraient un petit peu comme ces groupes d'anciens combattants qui, lorsqu'ils se retrouvent, se remémorent le souvenir de leur chef mort au combat. c'est bien les commémorations 14, 18, 39, 45. Voilà, il faut faire mémoire, il faut transmettre aux plus jeunes la réalité de ce qui s'est passé. Ça, c'est important, ce n'est pas ça. Mais si nous, en tant que chrétiens, finalement, là, tout à l'heure, quand on a pris la scène, c'est uniquement pour célébrer un moment de mort et qu'on en oublie, mais Dieu a ressuscité Jésus, on passe à côté de quelque chose de fondamental. Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, il n'y a pas d'espoir. Finalement, Jésus, il est comme Bouddha, Mahomet, tout ça. Il reste des tas de cendres. Vous comprenez l'enjeu. Donc, l'Église, en tant que telle, doit être une communauté de vie, et non pas de mort, mais une communauté qui célèbre quelque chose de dynamique, d'heureux. L'Église n'est pas un lieu de souvenir où l'on se souviendrait uniquement de la mort de Jésus. Non, l'Église est un lieu de vie, car notre Seigneur est aujourd'hui et encore vivant, assis à la droite de Dieu. Et c'est pour ça, et c'est notre privilège, c'est notre richesse, que quelles que soient nos circonstances, on peut lire un psaume et s'adresser à Dieu. Je dis un psaume, parce que dans les psaumes, il y a toutes les situations de vie possibles et imaginables, les heureuses et les plus difficiles. Et c'est ça qui fait notre force. La deuxième fidélité aussi, c'est la fidélité à la pensée biblique de l'Église. Et je ne parle pas de la fidélité à la tradition de nos églises ou de l'Église locale. Quand on lit Matthieu 16, la relation que Pierre et Jésus ont, Simon-Pierre répond, « Toi, Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Non, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Dans ce texte extraordinaire, magnifique, de cette rencontre, de ce face-à-face entre Pierre et Jésus, on voit un Pierre qui confesse sa foi en Jésus. Et le texte biblique nous dit que c'est Dieu qui lui a révélé ça. Ça, c'est l'importance. Hein ? Il se passe quelque chose dans les cœurs et dans les vies des gens parce que Dieu se révèle, parce que le Saint-Esprit agit. D'où l'importance de quoi ? De la prière pour les gens. Ça, c'est important. Jésus promet à Pierre que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Alors, bien sûr, je ne suis pas Pierre, mais ce texte nous montre que je ne peux pas être un chrétien rêveur, un doux rêveur, sur les réalités hypothétiques et tout. Je ne peux pas être un chrétien du dimanche non plus, mais bien un chrétien qui marche à la suite de Jésus. Je disais tout à l'heure que nous étions appelés à être fidèles à la pensée de Jésus concernant la manière dont il comprenait, lui, l'Église. Et d'après ce texte, comment Jésus comprend la réalité de l'Église ? Eh bien, il nous rappelle que déjà, c'est lui qui bâtit son Église. Nous, on peut être dans une attitude d'effort, de ceci. Non, Jésus bâtit son Église avec des pierres vivantes que nous sommes. Mais c'est lui qui bâtit son Église. L'Église, dans la pensée de Jésus, ben, ça a été tout d'abord le lieu d'intégration des premiers disciples, avec leur caractère, leur personnalité. Et on connaît la réalité de ce que ça veut dire. L'Église, c'est un lieu de découverte aussi de ce que Dieu donne et de ce que Dieu veut redonner. Et puis l'Église est le lieu par excellence où le chrétien et la personne qui cherche quelque chose va se retrouver assis à côté les uns des autres et va être dans une démarche de recherche et vivre ainsi ensemble. Il n'y a pas cette séparation dans la pensée de Jésus. Mais pour que l'Église puisse obéir ainsi à l'ordre de Jésus, en fait, finalement, il lui faut de l'audace. Aller, il faut être audacieux pour aller. Il faut sortir de sa zone de confort, comme on dit. C'est important. La fidélité à la parole de Dieu, en fait, finalement, n'est pas... Elle est importante, mais elle n'est pas suffisante. Il faut de l'audace, du courage. Et tout cela ne peut pas être vécu sans une véritable dépendance à la puissance que le Saint-Esprit veut nous donner. Ne faisons pas les choses par nos propres forces, mais faisons-les avec la force que Dieu nous donne. En introduction, donc, je citais ce passage d'Acte 13, Dieu a servi, David a servi Dieu dans sa génération, il n'est pas dit David a servi Dieu et sa génération. Mais Dieu a servi dans, David a servi dans sa génération. Et finalement, notre génération, là, début 2026, c'est quoi notre génération ? Bah, tout d'abord, quand on observe la réalité, et on est un petit peu là-dedans aussi, mais la génération qui est là-dedans, dans laquelle on vit, c'est une génération connectée, hyper connectée, plus que jamais. Au point même que la génération de nos aînés, ils sont complètement largués parce qu'on leur demande de faire tous les papiers en numérique, etc. Donc voilà, il y a des fossés qui se posent. Et quelle est notre place, nous, là-dedans, en tant que chrétiens, par rapport à ça ? Quelle aide qu'on pourrait apporter ? Quel soutien on pourrait apporter ? C'est une génération aussi musique, spectacle, multisens. La musique que l'on fait dans nos églises, dans sa diversité, avec les dons que l'on a, elle doit être de qualité, non pas pour s'en glorifier, mais pour honorer le Seigneur, pour que ça puisse être simplement, au-delà des paroles, un témoignage au travers de la manière dont on joue, de la guitare, de la flûte, de la batterie, de tous les instruments que Dieu permet. Pourquoi ? Parce qu'on rejoint finalement. Moi, je connais des églises où il y a des personnes qui ont un don pour le jazz. Ils jouent du jazz, etc. Et en fait, ils le mettent au service. Et en fait, le jazz devient un pont avec des personnes qui sont dans ce milieu-là. On pourrait citer plein d'exemples à ce niveau-là. On est aussi dans une génération de relations. On se balade dans les rues de Cray, le nombre de bistrots, il y en a pour tous les goûts, pour tous les gens, pour tous les partis politiques. Non, j'exagère, mais pas bien loin. En fait, oui, on aime bien manger, on aime bien rire, hein, on aime bien les grands buffets. Mais là, l'Église, elle connaît ça, hein, les apéritifs, les temps de repas, les temps où on vit ensemble. On est aussi dans une génération d'expérience. On veut goûter, on veut vivre quelque chose. Lorsque Michael, tout à l'heure, témoigne de son vécu de la semaine dernière avec ses orchidées et ses enfants. Il partage une expérience. Il rejoint... Excuse-moi d'enfoncer le clou, Michael. Je t'avais déjà oublié. Excuse-moi, t'étais déjà dans la reconstruction. Mais en fait, quand on partage des expériences dans l'Église, quand vous partagez, quand vous témoignez, hein, mais en fait, pour une personne qui est là en recherche, en fait, ça la rejoint. Tiens, des gens, ils vivent des choses, alors que je me pose cette question-là. On touche quelque chose d'important. Dans un autre domaine, on est dans une... Vous rentrez dans Cray, là, après le supermarché, après le girateur, sur votre droite, il y a une maison, la maison du bien-être. Je ne l'avais pas inventé, je l'ai vu tout à l'heure en arrivant. En fait, on a une génération qui recherche des soins, du bien-être, de l'épanouissement personnel. Vous voyez tous les séminaires qui sont proposés. Et nous, qu'est-ce qu'on propose ? Quand vous encouragez quelqu'un, quand vous dites à quelqu'un, écoute, par rapport à ton besoin, je vais prier pour toi, vous lui manifestez de l'amour, de la reconnaissance, elle existe, mais en fait, vous êtes dans ce secteur-là aussi. Et en fait, il faut pas avoir peur d'accentuer et d'être là. C'est ce qui fait famille, c'est ce qui fait qu'on s'encourage les uns les autres. Qu'est-ce que Paul aurait dit par rapport à la génération dans laquelle il vivait ? Il y aurait eu beaucoup de textes à citer. J'en ai pris un, c'est dans 1 Corinthiens 9. Voilà ce que Paul dit. « Personne parmi vous ne peut me forcer à faire quelque chose. Pourtant, j'ai voulu devenir le serviteur de tous pour gagner le plus de gens possible. Avec les Juifs, je vis comme un Juif, pour gagner les Juifs. Avec ceux qui obéissent à la loi de Moïse, j'obéis à la loi, pour gagner ceux qui lui obéissent. Pourtant, je ne suis pas obligé d'obéir à cette loi. Avec ceux qui ne connaissent pas la loi de Moïse, je vis comme si je n'avais pas cette loi, pour gagner ceux qui ne la connaissent pas. Pourtant, j'ai la loi de Dieu, puisque j'obéis à la loi du Christ. Avec les chrétiens fragiles, je vis comme si j'étais fragile, pour gagner ceux qui sont fragiles. Je me donne entièrement à tous, pour en sauver sûrement quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle, pour participer à ses richesses. » Il essayait de comprendre les gens qu'il avait en face de lui. Il essayait de s'intégrer à leur manière de penser, à leur manière de parler. Ça nous montre l'importance d'être proche des gens en essayant de les comprendre, mais de ne pas perdre de vue non plus leur salut. Je ne sais pas comment vous comprenez ces encouragements de Paul hein, à s'identifier à nos comportements, mais en fait, en lisant ça, je me suis dit, mais finalement, à quel moment de la semaine, en fait, je suis disciple de Jésus ? Attention à la réponse, finalement, qui peut être vite faite. Hein. Est-ce que nous le sommes, disciples de Jésus, 7 jours sur 7 ? Ou bien est-ce que nous sommes disciples de Jésus le dimanche matin quand j'ai reçu la convocation à venir au culte ? Et encore, dans certaines communautés, maintenant, même évangéliques, c'est plus tous les dimanches. Mais, et je le dis sans jugement finalement, si on bascule sur le fait d'être des chrétiens uniquement le dimanche, finalement on est des chrétiens de type sociologique, quoi. On fait partie des statistiques, quoi. Des chrétiens de nom. Alors que le fait d'essayer de tendre à vouloir vivre, en fait, avec l'aide, le conseil, la force du Saint-Esprit, en disant « Seigneur, je veux vraiment vivre ma vie chrétienne avec toi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec tout ce que ça comporte », je crois que ça change beaucoup de paramètres. J'ai essayé de réfléchir à une définition en fait, de ce que ça voudrait dire être disciple de Jésus. Et disciple de Jésus dépasse finalement notre adhésion simple par le baptême. C'est quelqu'un qui a répondu à l'appel de Jésus, qui lui dit « mais suis-moi ». C'est une personne qui a accepté un mode de vie donné par le Saint-Esprit. C'est une personne qui vit une transformation radicale de sa personnalité. Relisons par exemple le sermon sur la montagne pour nous rendre compte qu'est-ce que ça veut dire être disciple de Jésus pour Jésus. Être disciple de Jésus, on peut le voir comme un apprentissage continu où nous cherchons non seulement à savoir ce que Jésus sait, la connaissance, et nous autres évangéliques, on est très forts, on parle beaucoup, l'importance de la connaissance de la parole de Dieu, mais l'invitation que Jésus nous fait, c'est à devenir ce que Jésus est, son savoir-faire. Et dans le sermon sur la montagne, justement, il est beaucoup question de cela. C'est du pratique, c'est du concret. Et un des éléments très pratiques, c'est finalement la qualité de notre amour les uns à l'égard des autres. Et Jésus en parle très rapidement. Dans Jean 13, par exemple, il dit « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Comment ? Quel est le critère ? Que des non-chrétiens vont savoir si vous êtes des disciples de Jésus à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Est-ce que l'Église de Cré, est-ce que ma communauté est connue par rapport à ça ? Ils ont de l'amour les uns pour les autres. Et plus fort encore, je me suis posé cette question. Est-ce que l'Église de Cré, plutôt, est-ce que si l'Église de Cré ou l'Église du Drac, là où je suis à Grenoble, elle venait à disparaître pour des raisons, perte de ses locaux, etc., elle ne peut plus se réunir, etc. Est-ce que les non-chrétiens s'en apercevraient ? Non ? C'est une question piège, hein, mais je crois que c'est une question on devrait normalement susciter un manque, vous ne croyez pas ? Moi, je pense que oui, vous allez susciter un manque. Toutes les personnes qui ont reçu un paquet à Noël. Oui, 60 paquets, oui, j'ai entendu parler de l'histoire. Quoi. C'est, parce que c'est du concret, c'est du pratique. Il y a eu un témoignage de vie lié. Il y a des personnes, vous avez signé des papiers dedans avec un prénom, etc. Quoi. Il y a des réalités. Donc, en fait, pourquoi ? Parce que là, dans cet exemple concret, vous avez été, allé, vous avez été, vous avez donné, vous avez fabriqué. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ça invite finalement à se poser cette question encore. Deuxième, il y aura encore un troisième très court point et je conclurai. Quand une église s'ouvre aux personnes de sa génération, qu'elle veut vivre dans sa génération, qu'est-ce qui se passe ? L'image que je donnerais, moi, c'est cette image-là. Vous avez une maison qui était, et il y a une pièce qui a été fermée pendant des jours, des semaines. Quand vous ouvrez la fenêtre, qu'est-ce qui se passe ? Un air nouveau. L'air qui était vicié, où il y avait des odeurs et tout ça, disparaît. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous partageons l'évangile avec des personnes qui sont différentes de nous, déjà nous-mêmes, on va changer, parce qu'on va apprendre des choses au travers d'elles, dans l'accompagnement, dans le vécu, dans les relations, dans les paroles échangées. Et finalement, par définition, s'il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans une communauté avec des arrière-plans différents, la communauté va se métamorphoser au niveau de sa manière d'être. Donc finalement, tout va être question de perspective. Mais la vraie grande question, c'est comment entrer en relation avec des personnes qui pensent et qui agissent différemment de nous. Si vous lisez les épîtres du Nouveau Testament, et je pense plus particulièrement à l'épître aux Corinthiens, et tout à l'heure on en a lu un extrait, vous verrez que la ville de Corinthe n'est pas loin de notre contexte urbain finalement. On voit dans cette église une grande diversité, et en réfléchissant à cela, vous pouvez réfléchir à toutes les personnes que vous avez rencontrées tout au long de votre vie chrétienne, avec des arrière-plans, avec des vécus qui sont très différents. Et c'est ça qui fait notre richesse. Et le dénominateur de ces rencontres, finalement, c'est que vous avez peut-être rencontré des personnes qui avaient soif d'en connaître un peu plus sur la Bible, sur Jésus. Et finalement, si vous êtes dans une église accueillante, le lien se fait tout seul et facilement, quoi. Et par différents moyens, groupe découverte, parcours alpha, lire la Bible, enfin, il y a une multi idées, possibilités de pouvoir amener les personnes à être à la fois en contact avec un chrétien, avec nous, mais aussi avec la communauté. Et en le faisant, en fait, on réalise que finalement, le but, la mission, ce qui a été le ministère de Jésus, d'ailleurs, il était critiqué et jugé pour cela, c'est que Jésus n'était pas venu pour des gens qui connaissaient tout. D'ailleurs, il était même très dur vis-à-vis des religieux. Il est venu véritablement pour des gens qui n'étaient pas bien portants. Il est venu pour, excusez-moi, les malades de la société. Ce n'est pas péjoratif quand je dis malade. Et c'est pour ça que finalement, Jésus a eu des problèmes. L'Église, encore une fois, n'est pas un club sélect où pour franchir le pas de porte, il faudrait être parfait. Non, l'Église, c'est ce lieu où des pécheurs comme vous et moi, en fait, avons rencontré dans notre histoire Jésus. Et si nous sommes une église ouverte, eh bien, des personnes vont venir observer et peut-être qu'ils vont s'apercevoir qu'il y a dans cette communauté, dans votre communauté, une attitude, une pensée, des actes qui mettent à l'aise et qui font comprendre à la personne que finalement, je peux venir tel que je suis. Là, je peux poser toutes mes questions. Ça, c'est le slogan de McDo, hein. Venez comme vous êtes. Ils ont tout compris, quoi. Et puis, le fait de bien réaliser qu'une église n'est pas composée, et je l'ai entendu dans nos prières tout à l'heure, n'est pas composée de gens parfaits, mais de gens qui sont encore marqués par le péché, mais qui sont en route, en fait, finalement, ça nous rend humbles. Hein. Ça se partage et ça se vit. Parce que c'est un trait d'humilité, le fait de dire ben, « on n'est pas arrivé, je travaille encore sur tel et tel domaine de ma vie chrétienne parce que ce n'est pas facile. » Mais le Seigneur m'aide, il est là, il est présent à mes côtés. Et là, finalement, eh bien, on grandit, on progresse. Et finalement, plus on va être, en tant que chrétien, en contact avec la parole de Dieu, et notamment avec les enseignements de Jésus, et plus cet enseignement va nous transformer et va toucher notre personnalité. Alors, je vous ai beaucoup parlé hein, de l'accueil de l'autre, de l'accueil de celui qui est différent, mais peut-être que vous pourriez réagir et me dire « mais ça veut dire que l'on va accepter n'importe qui dans notre Église ?» Ce genre de truc, je les ai entendus. Hein. C'était dur à entendre. Alors, excusez-moi, mais n'importe qui, d'abord, c'est une personne créée à l'image de Dieu, même si elle n'a pas confessé Jésus-Christ. Hein. Elle reste néanmoins créée à l'image de Dieu. Et là, il y a la pensée de l'éternité, elle se pose des questions. Si elle est là en contact avec toi, donc ça veut dire que finalement, il y a quelque chose. Et puis, ce n'est pas ton Église, notre Église. Jésus bâtit son Église. Alors, c'est amical quand on dit notre Église. C'est une appartenance, c'est un lieu géographique, c'est familial. Oui, ok, mais réalisons bien que finalement, ce n'est pas l'Église du pasteur, ce n'est pas l'Église des anciens, c'est Jésus qui bâtit son Église. Et je crois que c'est important de comprendre cela, parce que c'est dans ce sens-là où on est membres les uns des autres et on est dans un même projet. Et c'est comme ça qu'on arrive à progresser, c'est qu'on arrive à grandir, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir finalement une culture « venez comme vous êtes ». Et ça veut dire avoir de l'accueil, ça veut dire travailler à cette capacité d'accueil. Et l'accueil, ce n'est pas seulement le café. C'est savoir reconnaître les gens, savoir s'identifier, savoir refaire du lien. On doit toujours et sans cesse travailler à une attitude et une culture d'accueil. Lorsque l'on accepte la personne telle qu'elle est, ça ne veut pas dire que l'on approuve son comportement. Parce que des fois, on confond les deux choses. Relisez Jean 8, la relation de Jésus avec la femme qui va se faire lapider, la femme adultère. À la fin, les dernières paroles. Il l'invite au changement, à la transformation. Et je crois que c'est important. Voilà, ça fait partie de tout cela qu'il faut véritablement intégrer. Et je finis, dernier point, très brièvement. Une église qui veut vivre dans sa génération, c'est d'abord une ouverture à l'action du Saint-Esprit, je l'ai dit par plusieurs fois. Si on regarde au modèle du Nouveau Testament, nous nous apercevons que ces hommes et ces femmes ont été bousculés dans leur perception de qui était Dieu. Et ça s'est passé notamment à la Pentecôte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, une vie d'intimité plus grande à l'égard de Dieu lors de cette journée-là. Et on s'aperçoit de quoi? Eh bien, d'une priorité à la prière. Tout changement d'attitude de cœur commence dans la prière. Et de cette intimité avec Dieu va surgir une compréhension nouvelle. Ils vont réaliser quoi dans les chapitres qui suivent? Ben tiens, l'Église, l'Évangile, c'est pas que pour les Juifs, mais c'est aussi pour les païens. Et les païens, c'est le mot technique pour dire, mais c'était qui? Les Grecs, les Romains. Donc, élargissement de la vision. Et de cette intimité surgit une vision renouvelée des besoins de la génération, des gens qui habitaient Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans le livre des Actes, quand on s'aperçoit, quel est l'emploi du temps? Quel est l'agenda des apôtres? Certes, on va dire, oui, tous les jours, ils vont au temple. Ouais, mais ils vont aussi dans la rue, répondant aux besoins des personnes. Ils vont devant les autorités pour répondre au pourquoi de leurs actions. Et ils vont toujours plus loin pour annoncer l'Évangile au niveau géographique. Et on les voit aussi, et c'est les cinq jours de la semaine, finalement, on les voit être des disciples de Jésus exerçant leur métier, de quoi? Faiseurs de tentes, marchands de pourpre, médecins, etc. D'où l'importance en Église, intéressons-nous au métier, prions les uns pour les autres, intéressons-nous à tout ce qui se vit au niveau professionnel. Pourquoi? Parce que nos frères et sœurs qui sont médecins, faiseurs de tentes, etc., ils sont disciples de Jésus aussi. Donc, encourageons-nous. Et le témoignage, ce n'est pas que les paroles, c'est des actions, c'est d'être intègre dans notre travail. Encourageons-nous et prions les uns pour les autres. Et puis, cette communauté nouvelle là, de la Pentecôte, eh bien, remplie du Saint-Esprit, elle réalise que finalement, les choses sont devenues différentes de l'Ancienne Alliance. Le Saint-Esprit n'est plus réservé aux rois et aux prophètes. Le Saint-Esprit est donné à tous. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça, c'est le moment charnière entre le avant et l'après. Ça veut dire qu'il n'y a, a pas que les hommes, les rois, les prophètes qui sont là, mais les femmes vont pouvoir avoir trouvé leur place au sein de la communauté chrétienne. Et on le voit bien tout en long, il y a un gros fil rouge là qui est dans le livre des Actes. Et relisez le dernier chapitre de l'Épître aux Romains et toutes les personnes que l'apôtre Paul cite, vous verrez que la moitié des prénoms sont des prénoms de femmes. Et dès le moment où on est conscient de cela, on est disciple de Jésus, on est chrétien et donc on peut aspirer à ces dons qui viennent d'en haut. Et ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, beaucoup d'hommes et de femmes sont touchés par le Saint-Esprit. Ils vont se lever pour servir Jésus. La question que je vous laisse, quels vont être les hommes et les femmes ou les jeunes qui vont se lever pour servir les personnes dans leur génération? C'est important. Le service, ce n'est pas que pour les autres, c'est... Moi, comment je me situe? Comment est-ce que je reçois cet appel pour servir Dieu? Et il n'y a pas de petit et de grand appel. Il y a le service pour Dieu, c'est tout. Et puis, et je vais conclure, ces disciples de Jésus se lèvent pleins d'enthousiasme. Pourquoi? Et ça doit être ça, notre moteur, notre motivation. L'amour de Jésus en vaut la peine. Oui, il faut le transmettre. J'ai tellement été béni en rencontrant Jésus. Et donc, je veux que maintenant, d'autres reçoivent cet amour-là. Je conclue. Ce que je vous ai partagé ce matin, c'est finalement un rappel de ce que les églises, de ce que nos églises sont invitées par le Saint-Esprit à vivre. Et ça veut dire quoi? Je le dis de manière un peu lapidaire, mais finalement, à se détourner d'elles-mêmes et à être des pratiquants de la vie de disciples de Jésus dans leur génération. Et quand je dis dans leur génération, c'est dans... auprès de ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus. Et peut-être qu'il y a une remise en question qui doit être individuelle concernant notre manière de vivre l'Église. et surtout notre vie de disciple de Jésus. On fait le constat, nous, bon, on est au mois de janvier, mais au mois de décembre, fête de Noël, ou faites des belles fêtes de Noël en interne, vous invitez des non-chrétiens, il n'y a aucun non-chrétien qui vient, si ce n'est le grand-père, la grand-mère qui vient par sympathie parce que son petit-fils joue l'enfant Jésus dans la crèche. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu... C'est pas comme ça qu'on voit le témoignage. Par contre, en fait, depuis 3 ans, l'Église a monté une chorale. Une chorale pour aller auprès des personnes âgées dans les EHPAD. Au début, les EHPAD étaient ultra frileux. Chanter, oui, mais pas de texte biblique, pas de parole entre les deux. Non seulement ils ont doublé le nombre d'EHPAD cette année, ils ont visité 4 EHPAD au mois de décembre. Alors le groupe qui était là, il y avait un groupe d'une 15aine de personnes, ils ont travaillé, ils ont transpiré pour tenir le rythme et tout. Mais en fait, la confiance a été gagnée et il y a des gens qui disent oh non, mais il n'y a pas de problème, vous pouvez lire des textes, il n'y a pas de souci, quoi. Et des portes se sont ouvertes. Et tout d'un coup, puisqu'ils remettaient le petit feuillet avec les textes des chants, en fait, des tas de relations se sont établies avec une personne, avec des personnes, certes d'un certain âge, mais il y avait encore des gens qui étaient en état de conscience de réaliser. Et ils ont obéi. Et en fait, Dieu honoré cette-là. Et ça, c'était l'encouragement pour l'Église. Ce n'est pas ce qu'on a vécu en interne de l'Église, mais c'est là où ils ont été, à l'extérieur, quoi. Et encore un petit noyau de la communauté. Je vous invite à prier et demander au Seigneur sa force, sa vision renouvelée. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. Merci pour les exemples très concrets qui sont là devant nos yeux. Et il y a des fois, on s'arrête, on se replie, mais on le fait tout naturellement parce que notre nature humaine est peut-être ainsi. Et Seigneur, on a besoin d'être rafraîchi, d'être renouvelé par ton Saint-Esprit pour que notre vision du monde qui nous entoure et de la génération qui nous entoure, du quartier, de la ville qui nous entoure, puisse être rafraîchie. Je te prie de bénir mes frères et sœurs de Cré. Merci de les encourager, de les fortifier. Merci pour tout ce qu'ils vivent, pour toutes les personnes qui te découvrent. Merci d'encourager chacun. Merci parce que, Seigneur, tu n'es pas à nous accuser, mais tu es à nous montrer des directions. Et tu veux fortifier le chemin qui est le nôtre. Et on te bénit pour cela. Merci pour l'amour dont tu fais preuve à l'égard de chacun d'entre nous. Je te prie de bénir les responsables de cette Église. Encourage-les eux aussi. Et encourage aussi une nouvelle génération à se lever et à avoir ce désir de te servir avec leurs dons, leurs capacités. Seigneur, tu es ce Dieu qui appelle aujourd'hui encore. Et on te bénit. Je te prie aussi pour les jeunes qui sont ici, qu'ils ne considèrent pas leur jeunesse comme quelque chose de péjoratif pour pouvoir te servir, mais qu'ils puissent te servir, Seigneur, avec leur enthousiasme, avec leur capacité, selon leurs dons. Merci de les encourager, eux aussi. Seigneur, on te remet toutes choses. Merci de bénir le reste de cette journée. Amen.